Je suis Émilie Canap, la directrice des médiathèques de Vitrolles. Et donc, je tenais à vous remercier d'être présent pour cette conférence ce soir dans le cadre des Mardis de la Passerelle, donc des conférences qui sont organisées tous les mois, une à trois fois par mois à la médiathèque La Passerelle. Je suis aussi très heureuse d'accueillir une nouvelle fois notre partenaire des Livres comme des idées dans le cadre des cycles de conférences, là pour le coup, du Collège de Méditerranée. Ma collègue en parlera mieux que moi. Et d'accueillir ce soir sur le thème « C'est écrit, c'est très bien, le Caire, histoire d'une métropole entre Islam, Afrique et Méditerranée », Monsieur Loiseau, donc, qui va pouvoir nous faire cette conférence. Je tenais aussi à vous informer que sur cette même thématique, mardi prochain, nous accueillerons également d'autres intervenants. La thématique de cette conférence, qui sera aussi à 19h, c'est métropole, nourricière ou prédatrice. Et là, nous aurons des intervenants qui aborderont la ville d'Alger, Barcelone et également la métropole Marseille-Provence avec la présence du maire de Vitrolles. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je passe la parole.
Oui, bonsoir. Merci d'être là, d'avoir bravé les premiers froids. Nous allons partir au Caire où il fait sans doute moins froid. Merci donc à mon tour de vous remercier pour cet accueil. C'est donc la deuxième année que nous sommes ici à la médiathèque La Passerelle et nous sommes très heureux de vous retrouver. Peut-être certains d'entre vous avaient assisté à la conférence de l'an dernier. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à la regarder puisque toutes les conférences du Collège de Méditerranée sont captées en vidéo. L'équipe est tout là-haut en régie et vous pouvez donc les retrouver. Alors qu'est-ce que le Collège de Méditerranée ? Le Collège de Méditerranée est né il y a 3 ans à l'initiative de plusieurs jeunes chercheurs, mais à l'initiative première, je dirais, de Julien, qui est là, entouré d'autres chercheurs. Un chercheur, c'est souvent un nom qui fait un peu peur. On a l'impression que les chercheurs, ils sont parfois un peu coupés de la société. Et c'est justement pour ça que ces historiens, pour la plupart, mais aussi philosophes, nous ont proposé des cycles de conférences où leur idée était de rencontrer le grand public, d'où le sous-titre du Collège de Méditerranée, c'est les sciences humaines dans la cité. L'idée, c'est vraiment de descendre dans la cité et de venir dialoguer avec le public sur des sujets qui sont parfois très pointus et que donc ces messieurs et ces dames essaient de rendre moins pointus et plus accessibles, on va le voir ce soir. C'est un pari pour eux aussi parce que c'est difficile parfois de trouver les mots et de savoir diffuser comme ça ces connaissances envers le grand public ou disons un public large et voilà, et on est heureux de vous emmener dans cette aventure. Peut-être, Julien, à l'issue de ta conférence, tu présenteras d'ailleurs le reste du cycle de l'année, où l'idée, c'est vraiment à chaque fois de raconter par le temps long des sujets qui peuvent aussi trouver un écho dans notre société contemporaine. Et ça, cet aspect-là est très important. Et cet écho, évidemment, on vous invite à le trouver avec nous par un jeu de questions-réponses à la fin de la conférence. N'hésitez pas à prendre la parole. La parole, je vais la laisser à Julien. Julien est donc professeur d'histoire à l'université d'Aix-Marseille. Il a vécu longtemps au Caire, ville qu'il connaît bien, ville à laquelle il avait consacré d'ailleurs sa thèse. Et je peux dire qu'il en est un des plus éminents spécialistes, du moins en tout cas sur le temps dont il va être question ce soir. Voilà, je te laisse donc la parole, Julien. Je te remercie pour cela et puis je vous souhaite une bonne conférence.
Merci beaucoup, Fabienne. Tous mes remerciements vont évidemment à l'équipe de la médiathèque La Passerelle, à sa directrice. On est vraiment très heureux, dans l'équipe du Collège de Méditerranée, de revenir ici pour la deuxième année consécutive. Je tiens également à remercier très vivement tous les membres de l'association des Livres comme des idées, qui portent ces conférences, qui les organisent. Et puis également des remerciements pour une étudiante de l'université, Jamila Wahou, qui a préparé cette conférence avec les membres d'une association d'alphabétisation, l'association BABA 13. On essaye aussi de préparer ces conférences avec des publics qui n'ont pas un accès généralement facile à ces événements-là. Alors, cette année, nous avons en quelque sorte répondu à l'appel, à l'invitation de la médiathèque pour nous inscrire dans le cycle de conférences de la médiathèque, sa directrice l'a rappelé, donc sur les métropoles de Méditerranée. Et de fait, ces cités méditerranéennes, elles sont nombreuses, ces cités qui peuplent notre imaginaire et qui, au sens propre, ont fait la Méditerranée. Alors on va se placer une petite carte sous les yeux. Ces cités qui ont fait de la mer intérieure un trait d'union, un espace de passage, qui ont façonné à son échelle une civilisation partagée. Nous pourrions égrener ensemble les noms de ces cités de Méditerranée, Athènes, Syracuse, Marseille, Alexandrie, Carthage, Rome. Rome, bien évidemment, parce que Rome, pendant plusieurs siècles, fut l'autre nom de la Méditerranée. Plus tard, d'autres cités sont venues ajouter leur pierre à l'histoire de la Méditerranée, Constantinople, Tunis, Palerme, Venise, Bougie, Barcelone, Gênes, Beyrouth, Naples, Alger. Bon, je m'arrête ici dans cette litanie. Toutes ces villes que je viens de mentionner ont, à une époque de leur histoire, à l'époque de leur apogée, ou à plusieurs moments de leur histoire, ont exercé des fonctions de métropole. Qu'est-ce qu'on entend par ça ? Eh bien, elles ont dominé un territoire, elles ont drainé vers elles des populations venant d'horizons très différents. Des marchandises, des richesses, des idées venues de loin. Elles ont drainé vers elles des ambitions, des espérances, qui ont fait rayonner leur nom très au-delà de leur arrière-pays. Pour le dire autrement, qu'est-ce qu'aurait été Marseille si elle n'avait eu que la Provence ? Évidemment, une métropole rayonne au-delà de son arrière-pays. Alors, vous l'aurez remarqué dans ce petit propos liminaire, il y a un nom de ville qui ne nous vient pas spontanément à l'esprit lorsque l'on songe à la Méditerranée. Alors même que cette ville, on va changer de carte, alors même que cette ville, qui a plus de 1000 ans d'histoire, a été et est toujours, dans une certaine mesure, l'une des métropoles non seulement les plus peuplées de cette partie du monde, mais également les plus influentes de cette partie du monde. Cette ville, à laquelle on ne pense pas spontanément lorsque l'on parle de la Méditerranée, c'est Le Caire. Alors, pourquoi n'y songeons-nous pas spontanément ? Sans doute, est-ce parce que Le Caire, situé à 200 km de la côte, n'est pas un port méditerranéen. Peut-être aussi est-ce parce que le Caire, fondé sur les rives du Nil, appartient, dans notre représentation du monde, à l'espace africain. Peut-être aussi est-ce parce que l'Égypte reste avant tout dans notre imaginaire, le pays des pharaons, le pays des pyramides, le pays d'une histoire tellement ancienne que nous avons du mal à penser que la trajectoire de ce pays ait pu croiser la nôtre. Comme si, au fond, l'Égypte appartenait à un espace-temps inconciliable avec le nôtre. Sans doute, il y a un peu de tout cela dans notre difficulté à intégrer l'Égypte et sa capitale à l'horizon de notre Méditerranée. Mais il y a une raison plus profonde encore à cela. C'est que le Caire appartient à un monde dont l'histoire ne s'est pas orientée comme la nôtre. Un monde où la Méditerranée a cessé d'être une mer intérieure pour devenir un espace frontalier, un espace disputé, un espace d'opportunités et d'échanges également, mais d'échanges entre des sociétés désormais très différentes les unes des autres, sur une rive et sur l'autre de la Méditerranée, des sociétés que beaucoup de choses opposaient désormais. L'histoire du Caire appartient à un temps où la Méditerranée a cessé d'être un trait d'union, pour devenir un miroir. Alors un miroir, ça renvoie une image, un miroir, ça se traverse aussi, bien évidemment, mais seuls les audacieux se risquent à traverser ce miroir. Cette histoire à laquelle appartient le Caire, eh bien, c'est l'histoire du monde islamique, d'un monde orienté au sens propre, un monde tourné vers l'Orient, un monde organisé le long d'une immense dorsale qui court, vous le voyez sur cette carte, qui court de l'ouest depuis les rives de l'Atlantique jusqu'aux rives de l'Indus, qui court de l'Espagne à l'Asie centrale, à l'Inde et même plus tard, là cette carte le représente autour de l'an 1000, même plus tard, à l'Inde et à l'Indonésie. Le Caire constitue l'un des principaux jalons de cette immense diagonale dont la Méditerranée n'est plus que l'une des façades, au même titre par exemple, que le Sahara et le Sahel. L'histoire du Caire est donc tout à la fois méditerranéenne, orientale et africaine. En un mot, elle est islamique, à condition d'avoir à l'esprit ce que signifie ici cet adjectif, ce que signifie le mot islam. L'islam, c'est bien évidemment une religion, mais ce n'est pas seulement une religion. Il faut avoir à l'esprit que l'islam a été aussi un empire. Un empire qui a dominé, entre autres, les rives méridionales et orientales de la Méditerranée. Un empire qui a été le creuset d'une civilisation mondiale, abreuvée à de multiples sources. La Méditerranée est l'une d'entre elles. La Méditerranée gréco-romaine est l'une des sources de la civilisation islamique, mais une parmi d'autres. Je vous propose par conséquent ce soir de découvrir ou de redécouvrir, peut-être pour certains d'entre vous, de découvrir ou de redécouvrir ensemble l'histoire du Caire comme un livre ouvert sur une histoire qui ne nous est guère familière, comme un livre ouvert sur une histoire que nous connaissons mal et qui pourtant a entraîné dans son sillage l'histoire de la Méditerranée. Un dernier mot pour préciser les limites de mon propos. Pour parler de l'histoire du Caire, il faudrait y passer une journée entière, peut-être même un cycle de conférences d'une semaine. Je me limiterai à ce que je connais le mieux, c'est-à-dire l'histoire du Caire médiéval. Je m'aventurerai un petit peu parfois au-delà du XVIe siècle, mais principalement, mon propos de ce soir portera sur l'histoire du Caire au Moyen-Âge. Alors, à quoi tient l'histoire d'une ville ? Qu'est-ce qui rend l'histoire d'une ville si singulière aux yeux de ses habitants, aux yeux de ceux qui la visitent ? Qu'est-ce qui la rend si singulière sous la plume des écrivains qui en font le théâtre, le décor de leur œuvre, ou sous la plume des historiens ? Qu'est-ce qui différencie une ville de toutes les autres ? Qu'est-ce qui la rend unique, reconnaissable entre toutes ? Commençons par interroger à ce sujet une image, une carte du Caire. Une très belle carte du Caire qui est réalisée au début du XVIe siècle pour illustrer un recueil de cartes et d'informations sur les ports et les routes maritimes, principalement les ports et les routes maritimes de Méditerranée. Un livre qui s'intitule « Le livre des navigations ». Il est écrit en turc, en turc c'est le Kitab-i Bahriye, livre composé en turc par un amiral de la flotte ottomane qui offre cet ouvrage, une fois achevé, en 1521, au sultan ottoman, donc à Istanbul. Le fait même que le livre des navigations comporte une carte du Caire est l'indice que la capitale égyptienne appartenait bien, au moins pour les hommes de ce temps, à l'espace méditerranéen. Parce que cet ouvrage, le livre des navigations, est effectivement centré sur l'histoire, sur l'espace et les navigations de Méditerranée. Alors, on le voit sur cette carte, une ville c'est d'abord un site, c'est un paysage, c'est un écrin dans lequel l'espace urbain s'est déployé. Et l'histoire du Caire est indissociable, à ce titre, de son site, entre la montagne et le Nil, la montagne ici qui s'appelle le Mokattam, et le Nil qui coule du sud vers le nord, le sud est en haut de la carte, le nord est en bas. Une ville à distance respectable d'ailleurs de l'une comme de l'autre. Le Caire de fait s'est établi à cheval sur le désert et sur la plaine fertile, le désert où sont établis ces immenses cimetières, dont je reparlerai, et la plaine où s'épanouissent les immenses jardins qui nourrissent la ville et qui sont ici représentés en particulier par des palmiers. Alors, une ville, c'est aussi une unité spatiale, un espace densément bâti, formant un noyau cohérent, un espace que des remparts, bien souvent, viennent à la fois protéger, délimiter et corseter. Bien souvent, je parle ici des villes d'avant, les 17e, 18e siècles. Sur cette carte, les remparts du Caire dessinent très clairement les limites, la ligne de démarcation entre l'espace urbanisé et le plat pays environnement. Peut-être même d'ailleurs un peu trop clairement, un peu trop nettement, pour être honnête, on y reviendra ensemble plus tard. La réalité est sans doute un peu plus compliquée. Et d'ailleurs, la carte signale dans l'environnement du Caire, dans l'environnement de la ville, non seulement des villages égrenés sur les deux rives du Nil, vous les voyez ici sur les rives droite et gauche du Nil, des villages, mais également de véritables quartiers qui appartiennent en fait à l'agglomération du Caire, qui appartiennent à son histoire, de véritables noyaux urbains, mais séparés du corps principal de la ville. On les voit ici, par exemple. Et ces noyaux urbains, séparés du corps de la ville, sont, on y reviendra, les témoins de son histoire, de sa très longue histoire. Une ville, enfin, ce sont des monuments célèbres, des lieux de mémoire qui font sa renommée en raison de l'histoire de ces lieux, en raison éventuellement de leur caractère sacré ou tout simplement de leur caractère incontournable. Et vous en avez sur cette carte des monuments au caractère incontournable. Vous les voyez en haut de la carte à droite. Ce sont les pyramides, bien sûr. Les pyramides sur le plateau de Gizeh. Les pyramides dont, à l'époque, nous sommes donc au début du XVIe siècle, on connaissait très mal l'histoire. Mais néanmoins, même si on ignorait beaucoup hein, de l'histoire de ces édifices, eh bien, ces édifices ne s'en imposaient pas moins hein, comme une évidence dans le paysage. Et de fait, dès le Moyen-Âge déjà, les pyramides étaient un lieu de promenade apprécié des habitants du Caire. On allait visiter les pyramides. On n'a pas attendu de déchiffrer les hiéroglyphes pour s'y intéresser. Outre les pyramides, la carte que nous avons sous les yeux signale le puissant château qui domine la ville. Ce puissant château que l'on appelait la citadelle de la montagne, construite sur un éperon rocheux, j'en reparlerai. On voit également au pied de la citadelle ce vaste hippodrome ici, entouré de murs, cette vaste étendue d'herbes vertes, un hippodrome qui était aussi et surtout un terrain d'entraînement pour les cavaliers d'élite, ces cavaliers qui, pendant près de 3 siècles, avaient régné sur l'Égypte et la Syrie, les Mamelouks que les Ottomans venaient tout juste de chasser du Caire, puisque cette carte est publiée en 1521. Nous sommes 4 ans à peine après la chute des Mamelouks et la victoire des Ottomans, la conquête du Caire par les Ottomans. C'est là que les Mamelouks, sur cet hippodrome, c'est là que les Mamelouks venaient s'entraîner, venaient également jouer au polo, car c'était l'un des loisirs royaux préférés de ces cavaliers. Partie de polo qui se déroulait en public, hein, auquel assistaient les habitants du Caire. C'était même un des spectacles hein, les plus prisés par la population qui venait admirer les prouesses des cavaliers Mamelouks. Enfin, le Caire, vous le voyez aussi sur cette carte, ce sont ces innombrables monuments surmontés d'une coupole et flanqués d'un minaret, des mosquées bien sûr, mais pas seulement, nous y reviendrons, car ces fondations, ces institutions pieuses, prestigieuses, avaient également d'autres fonctions que celles de lieux de culte. Alors, je pourrais continuer à détailler cette carte. Vous signalez par exemple cette colonne située, vous la voyez peut-être à peine ici, à la pointe sud de l'île de Raouda. Cette colonne, c'est la colonne du Nilomètre, le Nilomètre sur lequel était chaque année mesurée la montée de la crue du Nil, dont je reparlerai également. Je pourrais continuer à détailler ainsi cette carte, mais je crois que nous avons maintenant en tête tous assez d'éléments pour pouvoir entrer dans le vif de l'histoire du Caire. Alors, puisqu'il faut choisir une porte d'entrée dans cette histoire, commençons, si vous le voulez bien, par son nom. Depuis le XVe siècle au moins, la capitale égyptienne est connue en langue française sous le nom que nous employons tous aujourd'hui, que nous employons toujours aujourd'hui, quoique avec une orthographe variable, vous le voyez d'ailleurs ici à l'écran, le Caire. Auparavant, avant le XVe siècle, voyageurs et pèlerins européens l'appelaient volontiers d'un autre nom, Babylone d'Égypte, convoquant ainsi par ce nom de Babylone le souvenir du texte biblique, le souvenir de la Babylone biblique, l'image d'une ville immense, orgueilleuse et pécheresse. Mais quel est donc le nom, le vrai nom de la capitale égyptienne ? Le Caire vient de l'arabe el-Qahira, par l'intermédiaire de l'italien il-Cairo. Et ce n'est certainement pas un hasard si ce sont des marchands italiens qui, les premiers, ont fait connaître le Caire en Europe. Génois, Pisans, Vénitiens avaient d'importants intérêts en Égypte, par où passait le très lucratif commerce des épices, le poivre en particulier, et la noix muscade que l'on faisait venir de l'océan Indien, des îles de l'océan Indien, via la mer Rouge, et l'Égypte. Donc, en arabe, el-Qahira. El-Qahira signifie en arabe la victorieuse. C'est un mot qui a bien d'autres synonymes. Par exemple, Al-Mansoura, qui est un nom que l'on a donné aussi au Moyen-Âge à de très nombreuses villes dans le monde islamique. Mais Al-Qahira est aussi, en arabe, le féminin d'Al-Qahir. Al-Qahir, c'est le nom donné en arabe à la planète Mars. Or, l'astrologie occupait une place très importante dans la culture islamique au Moyen-Âge. Les souverains consultaient les astrologues avant de prendre une décision importante. Par exemple, avant de déclarer la guerre, avant de rentrer en bataille, ou avant de fonder une ville. Avant de fonder une ville, un souverain faisait établir par ses astrologues l'horoscope de la ville, pour connaître l'avenir de cette ville, et évidemment pour la fonder sous la conjonction astrologique la plus favorable pour assurer sa prospérité. Les souverains faisaient donc établir l'horoscope de leur nouvelle capitale, au même titre, par exemple, que l'horoscope de leur règne ou celui de leur fils et futur héritier. Le Caire, donc Al-Qahira, la victorieuse, la martiale, la martienne peut-être, hein, celle fondée sous le signe de la planète Mars, fut donc ainsi fondée en 969 de notre ère, sous le signe astrologique de la planète Mars, par une armée victorieuse. Une armée venue du Maghreb, venue de la Tunisie actuelle. Vous avez ici à l'écran un de ces très, très beaux objets d'art produits pour la cour de cette armée victorieuse, de ce souverain victorieux. Une armée qui comptait dans ses rangs de très nombreux combattants d'origine berbère, mais qui était conduite sur le champ de bataille par un ancien esclave d'origine sicilienne. Vous voyez, la Méditerranée se convoque aussi dans l'histoire du Caire. Cette armée était venue conquérir l'Égypte au nom d'un souverain qui prétendait à la domination universelle sur l'Empire islamique. Donc un souverain qui se prétendait calife, car c'est ça la signification principale du califat au Moyen-Âge, la domination universelle sur l'Empire de l'Islam. Et pour cet homme qui avait donc proclamé son califat, la conquête de l'Égypte n'était qu'une étape. Une étape vers le centre du monde islamique, vers Bagdad, capitale d'un autre calife, rival celui-là, hein, rival calife d'une autre dynastie. Alors, ce souverain, donc conquérant de l'Égypte, était le chef de la dynastie des Fatimides. Les Fatimides, pourquoi ce nom? Tout simplement parce que cette famille prétendait descendre du prophète de l'islam lui-même par sa fille Fatima, hein, d'où ce nom de Fatimide. C'est l'une des rares dynasties, sinon la seule dans l'histoire islamique, qui tire son nom, hein, du nom d'une femme, Fatima. Le calife Fatimide était aussi le chef d'un courant religieux minoritaire en islam, mais très actif au Xe siècle, très actif, très même, très dynamique, très conquérant au Xe siècle, le chiisme, et plus précisément une des branches du chiisme qu'on appelle l'ismaïlisme, hein, donc le chiisme ismaïlien, courant rival, courant adversaire de l'islam sunnite, dont le calife de Bagdad était l'autorité suprême. Conquérir l'Égypte, c'est donc une première étape pour ce calife parti de Tunisie pour atteindre Bagdad et le centre du monde islamique, ce qu'il ne parviendra jamais à faire. Mais restons en Égypte. En Égypte même, les chiites étaient alors très minoritaires parmi les musulmans qui étaient eux-mêmes encore minoritaires, nous sommes au Xe siècle, au sein d'une population restée très largement chrétienne. Les chrétiens sont restés numériquement majoritaires en Égypte, sans doute jusqu'au début du XIVe siècle. Donc, lorsque le calife Fatimide s'empare de l'Égypte, il décide d'établir sa résidence à l'écart de la population égyptienne. Il décide de s'installer non pas au sein de cette population musulmane égyptienne, mais à l'écart, dans une cité nouvelle, dans une cité palatiale, une cité-palais, réservée à lui-même et à ses hommes, une véritable cité interdite, retranchée derrière les hauts murs de son enceinte, à laquelle il donna donc le nom d'Al-Qahira. Or, je reste à mon histoire de nom de la ville. La cité des califes Fatimides est édifiée en 969 à quelques kilomètres seulement d'une autre ville. Une autre ville qui est alors l'une des plus grandes villes, sinon la plus grande ville de Méditerranée. Une ville dont le nom a pourtant été oublié depuis, y compris par les Égyptiens eux-mêmes, parce que depuis le XVIe siècle, les Égyptiens l'appellent simplement le Vieux Caire, hein, donc par opposition à Al-Qahira, le Caire, le Vieux Caire. Le Vieux Caire, son premier nom, son vrai nom, c'est Foustat. Foustat a été fondé 3 siècles avant Al-Qahira, en 641, lors de la conquête de l'Égypte par les Arabes, lors de ce grand mouvement de conquête. Vous avez ici une image, une image peinte qui ornait une des maisons de Foustat, mais qui est plus tardive que l'histoire de la fondation de Foustat. Foustat avait été fondé lors de la conquête de l'Égypte par les Arabes en 641, hein, au cours de ce grand mouvement de conquête qui avait placé les Arabes à la tête d'un immense empire et tiré de l'Espagne à l'Asie centrale. Et en 3 siècles d'existence, depuis 641, Foustat était devenue une ville extraordinairement prospère, grâce à la richesse agricole de l'Égypte, bien sûr, grâce également à la position centrale du pays, sur les routes, sur les itinéraires du grand commerce qui traversait le monde islamique. Or, le formidable développement de cette ville, de la première capitale de l'Égypte islamique, en faisait une ville très peuplée, même s'il est difficile de donner un chiffre avéré. Une ville très peuplée, elle était d'ailleurs fameuse chez les auteurs arabes pour la cohue et la foule qui se pressait dans ses rues. Elle était célèbre également pour ses immeubles à plusieurs étages, à une époque où c'était une rareté de construire des immeubles à plusieurs étages. Eh bien, Fustat, était déjà célèbre au Xe siècle par ses immeubles à plusieurs étages, rendus nécessaires par sa densité de population. C'est précisément cette foule, cette densité et les dangers de la foule que, en 969, le nouveau maître du pays, le calife Fatimide, a donc voulu éviter en établissant sa résidence à quelques kilomètres de distance. Et le nom qu'il donna à sa cité, Al-Kahira, devait progressivement éclipser celui de Fustat et même le condamner à l'oubli au fur et à mesure où les deux noyaux urbains se sont mêlés pour former une seule et même ville. Alors a-t-on fini avec cette histoire de nom ? Eh bien, pas tout à fait. Car Fustat n'est pas la première ville à avoir été édifiée à cet emplacement, en rive droite du Nil, en un point stratégiquement choisi, puisque nous sommes dans cette région d'Égypte où la vallée proprement dite, là où le fleuve est encadré par le désert, le moment où la vallée vient s'évaser et former le très vaste delta du Nil. C'est précisément un point de passage, cet endroit où est installé Fustat le Caire, point de passage où l'on peut franchir le grand fleuve grâce à des îles. Le lieu est parfaitement choisi pour qui veut contrôler les circulations entre la vallée et le delta, pour qui veut prélever l'impôt, pour qui veut capter une partie de l'immense richesse agricole de l'Égypte. Et il y avait là, justement, une petite forteresse. Une forteresse fondée au VIe siècle avant notre ère, à une époque où ce sont les Perses qui dominaient l'Égypte. D'où le nom de Babylone, Babylone d'Égypte, sous lequel cette ville était connue dans l'Antiquité. On comprend mieux pourquoi. Au Moyen-Âge, les auteurs européens qui lisaient leurs classiques désignaient sous ce vieux nom de Babylone la nouvelle capitale de l'Égypte islamique. Pourtant, à l'arrivée des Arabes en 641, vous avez ici une représentation des murs de Babylone d'Égypte, mais faite à la fin du XVIIIe siècle. Le siège du pouvoir en Égypte, quand arrivent les Arabes en 641, le siège du pouvoir en Égypte n'est pas installé à Babylone, mais à Alexandrie, sur la côte méditerranéenne. À l'époque, au moment de l'arrivée et de la conquête de l'Égypte par les Arabes, l'Égypte était l'une des provinces de l'Empire romain, plus exactement de l'Empire romain d'Orient, cet empire que nous appelons traditionnellement dans notre représentation de l'histoire, l'Empire byzantin, l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, qui avait pour capitale, comme vous le savez, Constantinople. Constantinople, énorme ville, qui assurait son approvisionnement en pain grâce au blé d'Égypte, grâce au blé égyptien qu'elle faisait venir depuis Alexandrie. Il était donc logique qu'à l'époque byzantine, la capitale byzantine de l'Égypte soit Alexandrie. L'Égypte était alors orientée vers le nord, tournée vers Constantinople. Eh bien, la conquête arabe de 641 réoriente l'Égypte. Désormais, le pays n'est plus tourné vers le nord, vers la Méditerranée, vers Constantinople. Il est désormais tourné vers l'Orient, vers la Syrie, l'Irak, que l'on atteint par les pistes qui traversent la péninsule du Sinaï, vers la mer Rouge également, que l'on atteint à travers le désert oriental. Et donc, assez logiquement, compte tenu de cette nouvelle orientation de l'empire auquel appartient désormais l'Égypte, eh bien, Babylone d'Égypte remplace Alexandrie comme siège du nouveau pouvoir. Et les Arabes y installent leur nouvelle capitale, Fustat, en 641, avant que, trois siècles plus tard, la fondation de la cité d'Al-Kahira ne vienne donner son nom à l'ensemble de la métropole égyptienne. Alors que nous apprend cette petite enquête onomastique, cette enquête à travers les noms de la ville. Elle nous apprend plusieurs choses. D'abord que le destin d'une grande métropole est très souvent le résultat de plusieurs histoires entremêlées, le résultat de dynamiques historiques différentes qui se renforcent les unes les autres, mais qui souvent conduisent à oublier l'histoire la plus ancienne des lieux. Cette petite enquête nous apprend également qu'en histoire, il est rare, ou il est exceptionnel que l'on parte de zéro. Il est rare qu'il n'y ait rien. Il est rare qu'il n'y ait rien là où une histoire commence. Elle nous apprend au fond cette enquête que fonder quelque chose, qu'il s'agisse d'une cité ou qu'il s'agisse d'une religion, fonder quelque chose consiste bien souvent à réorganiser l'existant. Fonder quelque chose consiste à réorganiser l'existant, à lui donner un nouveau sens. Cette petite enquête nous montre aussi que la multiplicité des noms de la ville, Babylone, Fustat, Al-Kahira, la multiplicité des noms de la ville raconte la succession des empires qui ont fait de cette ville le siège de leur pouvoir dans la vallée du Nil. Le Caire a connu tout au long de son histoire une série de dynasties, je vous en épargne la liste, elle est trop longue, toute une série de dynasties et d'origine politique, on en a déjà croisé trois, les Fatimides, les Mamelouks, les Ottomans, des dynasties, des régimes qui ont cherché à façonner, avec plus ou moins de succès, à façonner la ville à leur image, à leur usage. Et malgré la succession des dynasties et des pouvoirs, cette ville a su bâtir une identité, a su bâtir et conserver une identité par-delà les pouvoirs qui l'ont dominée. Dernier enseignement de cette petite enquête, elle nous apprend aussi qu'une ville se déplace. Une ville se déplace dans son espace. Elle nous apprend que les quartiers les plus anciens d'une ville n'occupent pas toujours le centre de la ville. De même qu'en archéologie, vous le savez peut-être, il arrive que les vestiges les plus anciens apparaissent au-dessus et non pas en dessous des niveaux les plus récents, hein, par des phénomènes de renversement des couches archéologiques. Et j'en veux pour preuve que depuis les années 1980, le Caire se déplace à nouveau, et le Caire se déplace hors du Caire. Vous le voyez sur cette carte prise sur le site de Google Maps, c'est une image récente du Caire, où on voit que le Caire sort du Caire avec la création de villes nouvelles qui ont été initiées dans les années 80, des villes nouvelles créées dans le désert occidental et dans le désert oriental, des villes nouvelles destinées à désengorger la ville historique. Et cette tendance, elle atteint aujourd'hui son paroxysme avec, vous en avez peut-être entendu parler, la fondation d'une nouvelle capitale. Alors elle n'apparaît pas encore sur la carte, elle n'est pas encore visible, elle est située 45 km à l'est du Caire, une nouvelle capitale qui d'ailleurs n'a pas encore trouvé de nom, hein, mais qui sans doute le trouvera. Alors outre le nom, ce qui donnait autrefois à une ville son unité, c'était bien souvent son enceinte. Le rempart qui la protégeait de l'extérieur, qui la séparait physiquement et symboliquement de ses environs. C'est le mur d'enceinte d'une ville qui lui donnait sa cohérence spatiale, sa visibilité dans le paysage, et qui d'ailleurs souvent, juridiquement, définissait les droits de ses habitants. Qu'est-ce qu'il en est au Caire ? Eh bien, la question des remparts, des enceintes du Caire, elle est aussi complexe que l'histoire de son nom. En 641, les Arabes ont assiégé une petite forteresse, donc la forteresse de Babylone, qui avait été renforcée, en partie reconstruite, à l'époque de l'empereur romain Trajan. Et il en reste encore aujourd'hui les vestiges d'une tour, c'est l'une des tours, hein, de la porte d'entrée de la forteresse de Babylone. Mais la nouvelle capitale que les Arabes construisent autour de Babylone est une ville sans rempart. C'est une ville ouverte, une ville ouverte vers le Nil, vers les campagnes, mais aussi vers le désert. Une illustration, c'est difficile de montrer à quoi ressemblait Foustat, car la ville a disparu. Il en reste tout de même des vestiges archéologiques qui ont été redécouverts à partir des années 1930. Vous avez ici à l'écran les vestiges de résidences aristocratiques construites au XIe, XIIe siècle, hein, dont il ne reste plus que évidemment quelques vestiges, quelques épaves, hein, au milieu de rien. Cette ville de Foustat était donc une ville ouverte parce que les nouveaux maîtres du pays se sentaient sûrs de leur force, sûrs du contrôle qu'ils exerçaient sur le pays et n'éprouvaient pas tout simplement la nécessité de construire un rempart. De ce point de vue, le paysage change en 969 avec la fondation d'Al-Qahira, avec la fondation de la cité palatiale des califes fatimides. Les califes fatimides avaient eu une première capitale en Tunisie, Mahdiya, une ville qu'ils avaient fait construire sur une péninsule séparée du reste du pays, juste par un passage étroit, donc à l'écart, physiquement à l'écart du pays. Eh bien, ils reproduisent au fond le même modèle en arrivant en Égypte, en créant leur cité, je le disais tout à l'heure, à l'écart de Foustat, et en se retranchant à l'abri d'un rempart. Le premier rempart de la cité fatimide a été édifié en briques crues, donc des grosses briques séchées au soleil. Et évidemment, ce genre de rempart, ça résiste assez mal à l'épreuve du temps. Et aujourd'hui, on ne peut plus le voir, ce premier rempart. En fait, on en a retrouvé des traces par des fouilles archéologiques, mais des traces absolument pas spectaculaires. On sait qu'il a bien existé. En revanche, à la fin du XIe siècle, les Fatimides ont fait refaire leur rempart. Et ils ont fait appel à des architectes qui, eux, savaient manier la pierre. Ils ont fait appel à des architectes et à des maçons arméniens. C'est le début d'une longue histoire de la diaspora arménienne en Égypte et de la diaspora arménienne au Caire. Alors, c'est de cette deuxième muraille fatimide du Caire, il reste les portes d'entrée, portes absolument monumentales. Vous avez ici deux de ces portes, à gauche, Bab el Futuh, la porte des conquêtes, et à droite, Bab el Nasr, la porte du secours divin, hein, du secours apporté par Dieu. Voilà deux de ces portes, il y en avait d'autres, hein, qui commandaient l'entrée dans la cité fatimide. Des portes très imposantes et dont le rôle symbolique, je reviendrai tout à l'heure sur le rôle symbolique des portes, hein, était très important. Qu'est-ce que les fatimides voulaient abriter dans leur cité? Eh bien leur palais. Pour commencer, hein, c'est à l'abri de ces portes que se trouvaient les palais des califes, mais également les magasins des palais où ils entreposaient les armes, les objets précieux, les réserves alimentaires de la cour. Il y avait également à l'abri des remparts les casernes des troupes d'élite du calife. Et puis également à l'abri de ces murs, la grande mosquée construite par les Fatimides, la mosquée Al-Azhar, la plus brillante. Je reviendrai sur l'histoire d'Al-Azhar un peu plus tard dans mon exposé. Tout cela devait donc être protégé, séparé, à la fois physiquement et symboliquement, protégé, séparé du reste du pays, et surtout, je le disais tout à l'heure, séparé de la grande ville toute proche de Fustat et de sa population foisonnante. Ce qui veut dire que, à l'époque des Fatimides, nous sommes donc au XIe, XIIe siècle, l'espace de la capitale égyptienne n'était donc pas unifié par un seul et même mur d'enceinte. Bien au contraire, le rempart de la cité des califes avait pour but de la séparer du reste de la ville. Eh bien, cet état de fait va changer à la fin du XIIe siècle, avec un homme que l'on connaît bien, y compris en Europe, un homme qui a mis fin à la dynastie des Fatimides et que l'on connaît bien en Europe en raison de son rôle au moment des croisades. Cet homme, ce chef de guerre, c'est Saladin. Bon, on ne connaît aucun portrait de Saladin, alors quitte à vous donner un portrait de Saladin, voici un album de bande dessinée auquel j'ai contribué et que je vous invite à lire si vous voulez connaître un peu mieux l'histoire de Saladin. Alors c'est Saladin qui, en 1174, 3 ans après avoir mis fin au califat des Fatimides, lance le grand chantier des murailles du Caire. Le projet, c'est unifier l'espace urbain derrière un grand mur d'enceinte. De fait, le contexte militaire a radicalement changé. Depuis la fin du XIe siècle, des guerriers venus d'Europe se sont installés en Syrie-Palestine et menacent les positions des souverains musulmans. Ces guerriers, évidemment, ce sont les croisés, hein, arrivés à Jérusalem en 1099. En 1168, le roi de Jérusalem, Amaury Ier, et ses hommes ont attaqué l'Égypte et ont atteint sa capitale et même incendié les quartiers de Fustat, quartier non protégé, hein, quartier qui n'avait pas d'enceinte, pas de rempart pour les protéger. Nous l'avons vu ensemble tout à l'heure. Alors Saladin lance ce projet d'un grand rempart du Caire dans ce contexte militaire, dans ce contexte marqué par la menace nouvelle des croisés. Mais il y a d'autres raisons à ce projet. C'est que Saladin, le sunnite, se méfie de la population de la capitale des Fatimides, hein, ces califes chiites dont il a mis fin au règne en 1171. Autrement dit, le projet de Saladin répond à la fois à la nécessité de se protéger d'une agression extérieure, mais également répond également à sa méfiance à l'égard de la population très nombreuse du Caire. Toujours cette méfiance du pouvoir à l'égard de la population urbaine. La volonté aussi de Saladin d'établir à l'écart, à l'abri d'une forteresse, ces troupes qui sont kurdes et turques, qui donc sont étrangères au pays, hein, étrangères à sa population, et que le chef de guerre veut établir à l'écart. Alors ces différentes considérations donnent naissance à deux chantiers monumentaux. Un rempart qui englobe à la fois les quartiers de Fustat et d'Al-Kahira, un rempart qui protège désormais l'agglomération sur 3 côtés. Le 4e côté, c'est le Nil, hein, qui suffit à protéger la ville. Et donc, premier chantier, un grand rempart. Deuxième chantier, une citadelle. Une citadelle édifiée sur un éperon rocheux, à la fois pour commander le rempart, pour commander l'enceinte, pour protéger la ville des menaces extérieures, mais également, bien évidemment, comme je le disais à l'instant, pour surveiller le Caire et sa population. Alors le chantier de la citadelle prendra une 30aine d'années pour être achevé. Vous avez ici une représentation de la citadelle à la fin du XVIIIe siècle, depuis le désert, depuis l'extérieur, depuis l'est du Caire. Le chantier du rempart, vous avez ici une photographie récente hein, du rempart de Saladin sur son parcours est, sur le front oriental du rempart. Le chantier du rempart, lui, ne prit que 4 ans, 4 années seulement pour enclore l'ensemble de l'agglomération de la capitale, l'ensemble de la métropole du Caire. Alors, on peut s'étonner hein, de la rapidité de ce chantier. Tout simplement parce qu'un chantier comme celui-là, il faut une main-d'œuvre abondante et surtout un approvisionnement en matières premières, en pierre. Alors la main-d'œuvre, Saladin va la chercher pas très loin, il va la chercher tout simplement chez les prisonniers qu'il a fait au cours des croisades. Hein. Ce sont souvent des ouvriers et des maçons choisis parmi les prisonniers francs, hein, parmi les croisés capturés lors des batailles de Saladin. Ce sont eux qui vont être les grands ouvriers de ce chantier. Et puis, eh bien, les pierres, il ne va pas les chercher très loin non plus. Il va les chercher de l'autre côté du Nil. Il va quand même falloir leur faire traverser le Nil. Il va les chercher dans une carrière de pierre d'un genre un peu particulier, parce que c'est une carrière où les pierres sont déjà taillées, à savoir les petites pyramides du plateau de Gizeh. Les petites pyramides qui ont été démantelées, hein, dont on ne connaît aujourd'hui plus que les fondations, les pyramides des reines, ces pyramides, elles ont été démantelées en grande partie par Saladin dans les années 1170-1180 pour fournir son chantier en pierre de construction pour la muraille et la citadelle du Caire. Et d'ailleurs, les archéologues ont retrouvé dans la muraille des blocs inscrits de hiéroglyphes hein, qui sont tout simplement les vestiges hein, de ces pierres récupérées sur les grands monuments pharaoniques. Alors, la ville désormais du Caire, c'est avec la construction du rempart de Saladin, alors qui se voit mal sur cette carte, mais je reviens quand même à cette image puisqu'elle me sert tout au long de l'exposé. C'est une ville désormais à trois pôles urbains. Foustat, l'ancienne ville hein, des conquérants arabes, au sud, au bord du Nil, la cité des califes fatimides, Al-Qahira, ici dans la partie nord, et troisième pôle, la citadelle de la montagne, qui attire les nouvelles constructions hein, et qui suscite l'urbanisation des quartiers entre le sud hein, de la cité fatimide et donc les murs de la citadelle. Alors, une organisation de l'espace puissante hein, et structurée par un rempart commun. Et pourtant, cette nouvelle organisation de l'espace, aussi puissante soit-elle, est très rapidement dépassée, en moins de 2 siècles, dépassée par la croissance de la population de la capitale égyptienne. Nous arrivons à l'apogée hein, médiéval du Caire, à un moment où il devient possible de se risquer à donner un chiffre de population. Le Caire, au milieu du XIVe siècle, nous sommes à la veille de la peste noire, cette épidémie qui va emporter un tiers de la population des villes, peut-être un tiers à la moitié de la population des villes dans l'ensemble du bassin méditerranéen, en Europe, en Afrique du Nord, en Orient également, c'est d'ailleurs d'Orient, hein, d'Asie qu'elle arrive cette épidémie. Eh bien, à la veille de l'épidémie de la peste noire qui atteint le Caire en 1347, le Caire compte environ 300 000 habitants. Alors ça ne nous paraît pas beaucoup aujourd'hui, 300 000 habitants. C'est malgré tout, pour une ville médiévale, pour les conditions d'approvisionnement et de vie hein, d'une ville médiévale, c'est tout à fait exceptionnel. Pour vous donner quelques points de comparaison, les plus grandes villes d'Europe à la même époque, les cités italiennes, Venise, Gênes, Milan peut-être, comptent 100, 120, 150 000 habitants. La plus grande ville d'Europe, Paris, comptait peut-être 200 000 habitants. Et encore, c'est l'estimation haute. On estime la population parisienne entre 80 et 200 000. On a du mal à avoir un chiffre très sûr pour le Moyen-Âge. 300 000 habitants, ça fait du Caire l'une des plus grandes villes du monde, tout simplement. Il faut aller en Chine à la même époque pour voir des villes au moins aussi peuplées ou plus peuplées que le Caire. Il faut aller en Chine ou en Amérique, hein, avec Mexico, enfin Mexico plutôt au 15e siècle. Le Caire est donc devenu la plus grande ville de Méditerranée et l'une des plus peuplées du monde. Et cette forte croissance démographique a entraîné l'expansion de la ville hors de ses murs, la formation de nouveaux quartiers au-delà du mur d'enceinte, qui rend bien évidemment le mur d'enceinte beaucoup moins utile dès lors qu'il se retrouve au milieu des nouveaux quartiers. Est-ce que cela implique que les portes, les murailles ne jouent plus aucun rôle? Alors, il y a quelques épisodes militaires dans la vie du Caire qui nous rappellent que les portes servent quand même à quelque chose. En 1389, le Caire est assiégé par des émirs rebelles venus de Syrie. On ferme toutes les portes pour les empêcher d'entrer. Même chose en 1517 quand les Ottomans approchent. Mais le rôle des portes et des enceintes dans une ville qui a dépassé hein, ces enceintes, ce rôle est peut-être plus symbolique que simplement sécuritaire. Et ce rôle symbolique, il faut que je m'y arrête, il est très important. D'abord, c'est aux portes du Caire, c'est aux portes des villes en général, que l'on paye ou que l'on payait les taxes sur les marchandises qui entraient dans les villes. C'est aux portes des villes que le gouverneur ou le souverain, lorsqu'il voulait accomplir un geste pour qu'il soit connu de tous, hein, se plaçait à la porte des villes. On sait par exemple qu'un gouverneur du Caire décida, il était pris d'une... Il souhaitait éliminer, faire disparaître le commerce du vin au Caire. Il n'y est évidemment jamais parvenu, hein, avait décidé de saisir toutes les jarres de vin qu'il trouvait et de les faire briser précisément à l'entrée de la ville, devant cette grande porte, hein, la porte de Zouaïla, Bab Zouaïla, au lieu symbolique des décisions pouvoir mamelouk. C'est là, par exemple, que le souverain faisait accrocher la dépouille mortelle d'un ennemi ou sa tête coupée, à la tête coupée d'un rebelle qu'on lui avait fait venir, par exemple, des lointaines provinces de Syrie. On laissait à la porte de Zouaïla accrocher le corps des adversaires, la dépouille mortelle ou la tête, hein, la tête coupée d'un rebelle. Lorsque les Ottomans prennent le Caire en 1517 et quelques mois plus tard, ils se saisissent de la personne du dernier sultan mamelouk, Tuman Bey, ils vont le pendre. Alors, bien évidemment, pendre. Il faut savoir que les Ottomans ont coupé les têtes, hein, ils en coupaient beaucoup. Donc lorsqu'ils décident de pendre, c'est qu'évidemment, ça a une dimension infamante, hein, que n'a pas la décapitation. Ils décident de pendre le dernier sultan mamelouk, précisément ici, hein, sous la porte, à la porte de Zouaïla. Nous avons, au fond, dans nos villes d'aujourd'hui, qui sont des villes ouvertes, embouteillées certes, mais ouvertes, nous avons perdu le sens de cette symbolique, hein, des limites urbaines. Une ville, au même titre qu'une maison ou qu'un lieu de culte, doit être protégée. Son seuil est un espace que l'on doit protéger, protéger physiquement, protéger également magiquement contre les ennemis invisibles. J'en donne juste une petite illustration. Nous sommes ici à l'intérieur de la porte des conquêtes, à l'intérieur de Bab El Futuh. Et vous voyez à l'angle ici... alors, vous voyez derrière moi un narguilé abandonné, ça c'est pas très important. Ici... Vous voyez ici un petit dôme, une petite coupole. Eh bien, ce petit dôme, c'est tout simplement un tombeau. Le tombeau d'un saint, le tombeau d'un saint musulman, d'un soufi, inhumé à l'intérieur de la porte. Et les portes du Caire avaient comme ça la présence, hein, physique ou symbolique de saints personnages associés aux portes. Ils sont là pour protéger la ville, tout simplement, pour interdire aux forces du mal, aux forces mauvaises, aux forces invisibles, d'entrer dans la ville. Donc voilà, ayons en tête, hein, cette idée que les portes, le rempart, avaient aussi, hein, cette forte valeur symbolique. Alors reprenons maintenant le questionnaire que je vous avais proposé en introduction en analysant la carte du livre des navigations, la carte du Caire de Piri Reis. On avait vu ensemble qu'une ville, bien, c'est un nom, une ville c'est un espace unifié par des remparts, une ville c'est un site géographique également, et ce sont des monuments célèbres. Alors le site du Caire, parlons-en maintenant. Le site du Caire, je l'ai évoqué déjà à plusieurs reprises, eh bien, c'est le site d'une ville établie entre la montagne et le fleuve, une ville établie entre le désert et la plaine irriguée. Mais la ville, vous le voyez sur cette carte, ne s'est pas développée au bord du fleuve. Ce n'est qu'à une époque récente, essentiellement le XIXe siècle, que le progrès des techniques a permis de stabiliser les berges du Nil et de lancer sur le Nil des ponts pérennes, des ponts permanents, hein, d'une rive à l'autre. Jusqu'à cette époque assez récente, donc jusqu'au XIXe siècle, on traversait le Nil à la barque, ou dans le meilleur des cas, et c'était le cas au Caire, sur un pont, mais un pont de bateau, c'est-à-dire des bateaux, hein, liés les uns aux autres par des cordages, hein, et qui permettaient donc de traverser sur un pont de bateau, de traverser le fleuve. Pourquoi cette technique des ponts de bateau ? Eh bien, tout simplement parce que elle avait un grand mérite, cette technique, elle permettait de résister à la montée des eaux lors de la crue du Nil. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Évidemment, c'est l'événement annuel au Caire, c'est l'événement majeur de l'année, la crue du Nil. La crue qui commençait au début de l'été et qui atteignait son paroxysme après 2 mois de montée au début du mois de septembre. Le niveau du fleuve s'élevait alors à plus de 8 mètres au-dessus de son plus bas niveau. La différence entre l'étiage, hein, et le sommet de la crue au Caire, évidemment c'est différent d'un point à l'autre de la vallée du Nil, au Caire c'est plus de 8 mètres à cette époque-là. La différence entre l'étiage et le maximum de la crue. Aussi, il faut imaginer un tout autre paysage pendant les mois les plus chauds de l'année. Un paysage envahi par les eaux, comme sur cette carte postale. Vous voyez les pyramides et la vallée du Nil à l'époque de la crue. Hein, vous voyez que le Nil envahit hein, les berges du Nil pratiquement jusqu'au pied du plateau des pyramides. Au Caire, ce sont les places du Caire qui se remplissent, qui deviennent des étangs. Les places qui deviennent des étangs, les places qui deviennent aussi des lieux qu'on ne traverse plus qu'en barque. La crue du Nil au Caire, c'est un événement que l'on scrute sur la colonne du Nilomètre. J'avais évoqué tout à l'heure cette colonne sur la carte de Piri Reis. Le Nilomètre, c'est le plus ancien monument islamique du Caire. Il date du début du IXe siècle. On n'a rien conservé de plus ancien. Et c'est une colonne graduée hein, qui permet de mesurer, coudée après coudée. Une coudée, c'est environ une cinquantaine de centimètres, l'avancée de la crue. Une mesure qui est stratégique parce que, bien évidemment, le niveau de la crue détermine l'étendue de l'irrigation pour les mois à venir et donc détermine la récolte de l'année suivante. Et si la crue est mauvaise, on anticipe une mauvaise récolte et donc tout de suite les prix augmentent. Donc la question de la mesure de la crue était stratégique pour le pouvoir, et on le sait puisque lorsque la crue était mauvaise, généralement le pouvoir s'abstenait de faire crier par les rues de la ville le niveau hein, de la crue pour ne pas alerter trop vite la population. La période de la crue, en temps normal, disons quand la crue était suffisante, c'est une période de fête, hein, une période de jeu, où on profite justement de cette omniprésence de l'eau hein, et de ces places urbaines devenues des étangs, hein, où se déroule le soir de grandes fêtes. Le reste de l'année, 8 mois sur 12, eh bien, le fleuve s'éloigne de la ville. Et il s'en éloigne beaucoup, il s'en éloigne même beaucoup parce que le fleuve, au Moyen-Âge, a tendance à divaguer. C'est-à-dire en fait à changer de cours hein, et d'année en année le Nil lorsqu'il revient dans son cours mineur, donc au moment de l'étiage, de la fin de la crue, lorsqu'il revient dans son cours, le cours s'est progressivement déplacé. Et il y a une tendance très forte au cours du Moyen-Âge au déplacement du cours du Nil qui s'éloigne de la ville. Il y a même une période au XIIe, XIIIe siècle où ce déplacement est visible d'année en année et on essaye de le freiner mais sans jamais y parvenir. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, ça a comme conséquence que la ville doit aller chercher l'eau au Nil, c'est-à-dire de plus en plus loin, parce que le revers de la médaille, c'est que le Nil, qui est aussi un fleuve avec des courants souterrains, eh bien, l'eau souterraine du Nil n'est pas buvable, elle est saumâtre, elle est trop salée pour pouvoir être bue. Donc les gens faisaient venir l'eau depuis le Nil. Alors, vous le voyez sur la carte, le sultan n'avait pas ce problème-là, puisque lui, il avait un gigantesque aqueduc qui amenait l'eau à la citadelle. Donc pas de problème, il faut avoir en tête que la citadelle est une véritable ville dans la ville. Il y a plus de 6 ou 7 000 personnes qui vivent en permanence hein, dans la citadelle. Donc il fallait évidemment l'approvisionner. Mais le reste des habitants du Caire, eux, doivent se débrouiller, et en particulier se débrouiller grâce à des porteurs d'eau. En fait, l'eau venait dans les maisons grâce à des porteurs d'eau. On estimait au XIVe siècle qu'il y avait 12 000 porteurs d'eau en activité au Caire pour les besoins de la population. L'eau était ainsi transportée dans chaque maison, là où on la stockait dans des jarres. Mais pour les habitants plus modestes ou pour les passants, il y avait également des abreuvoirs et des fontaines construits dans les rues de la capitale, des abreuvoirs pour les animaux, des fontaines pour les hommes et les femmes, qui étaient créés par de riches donateurs qui donnaient également de quoi des fonds, de l'argent, de quoi financer justement ce transport de l'eau hein, quotidien depuis le Nil jusqu'à la citerne de ces fontaines. Il faut imaginer des édifices assez monumentaux, je vous en montre deux ici, hein. Une de ces fontaines qui, elle, a été édifiée dans la première moitié du XIVe siècle. Il manque la partie basse où se situait justement le lieu de distribution, mais vous voyez que c'est un monument assez imposant, avec une très grande citerne enterrée, et donc un lieu de distribution. On appelait ces fontaines des sabiles. Des sabiles, tout simplement parce que c'était des œuvres pieuses fondées sur le chemin qui conduit à Dieu. Et en arabe, on appelle ça « fisabilillah hein, », sur le chemin de Dieu. Littéralement, c'est chemin, hein, le sabil. C'est la voie qui conduit à Dieu. Et donc, on offrait l'eau aux habitants de la ville comme une œuvre pieuse pour aller à Dieu. Autre exemple, hein, très monumental, ici d'un sabil construit à la fin du XVe siècle par le sultan Mamelouk, véritable monument hein, urbain, Vous voyez ici que, évidemment, cette action charitable, le sultan la met en scène hein, pour sa plus grande gloire. Ces fontaines sont devenues des édifices familiers hein, dans les rues du Caire, et le nom de Sabil, qui d'abord apparaît au Caire, se répand ensuite dans toutes les villes du monde arabe jusqu'à l'eau courante, hein, à une date récente. Alors, monuments familiers, que sont ces sabils? Voilà qui nous conduit à une interrogation que j'ai laissée en suspens, c'est la dernière grande interrogation de cette présentation, à savoir quels sont les monuments du Caire? Quels sont les monuments les plus fameux, ceux qui faisaient sa gloire, ceux qui faisaient sa renommée dans le monde islamique? Je laisse de côté ces monuments hérités du passé anté-islamique, que sont les pyramides, et plus largement tous les vestiges pharaoniques, encore visibles, bien évidemment, dans le paysage tout au long du Moyen-Âge. Ces vestiges étaient connus, ils intriguaient les habitants, les voyageurs, mais sans que l'on puisse à l'époque dire autre chose à leur sujet qu'un certain nombre de légendes. Mais le Caire avait également ses propres monuments. Le Caire avait ses propres monuments qui faisaient la fierté de ses habitants et qui attiraient la curiosité des voyageurs. C'est le cas en particulier de ses mosquées les plus anciennes. Ces mosquées les plus anciennes qui étaient également les plus vastes parce que les premières mosquées du Caire ont été édifiées à une époque où l'on considérait que l'ensemble des fidèles, enfin la moitié des fidèles, la moitié masculine des fidèles, devaient en principe pouvoir se rassembler dans la mosquée de la ville pour la prière communautaire du vendredi. Les premières mosquées construites étaient donc d'énormes édifices puisqu'ils devaient en principe accueillir l'ensemble de la communauté des fidèles, l'ensemble de la communauté masculine des fidèles. Alors, cette unité de la communauté, c'était en fait un peu un vœu pieux, d'abord parce que tout le monde n'allait pas à la mosquée, et puis aussi parce que très rapidement, des mosquées furent construites dans les quartiers, au plus près des besoins des habitants et de leurs habitudes. Un chiffre, en 1517, au moment où les Ottomans entrent au Caire, on compte plus de 220 mosquées qui ouvrent leurs portes chaque vendredi pour la prière communautaire. On est donc très loin de cet idéal d'unité hein, où il faudrait qu'une seule mosquée accueille les habitants d'une seule et même ville. Malgré tout, cette démultiplication des lieux de culte n'a rien enlevé au prestige des premières mosquées, des grandes mosquées, qui d'ailleurs ont été agrandies et rénovées de nombreuses fois au cours du Moyen-Âge. Alors, à Foustat, la première ville créée par les Arabes autour de Babylone d'Égypte, eh bien, fut édifiée en 641, dès la création de la ville, la première mosquée d'Égypte, qui est aussi la plus ancienne mosquée d'Afrique, et qui porte le nom du général qui a conquis l'Égypte, Amr ibn al-As, donc la mosquée de Amr. Mais cette mosquée de Amr, les habitants du Caire, dès le Moyen-Âge, l'appelaient de manière plus familière la mosquée vieille, hein, ou la vieille mosquée, j'aime bien la attique, la mosquée vieille. La mosquée, vous avez ici une photographie de la salle de prière de la mosquée de Amr, ou de la mosquée vieille, c'est évidemment un lieu de prière, mais c'est aussi la mosquée un lieu d'enseignement, c'est également un tribunal, c'est aussi un espace de sociabilité. C'est beaucoup de choses à la fois, une mosquée, ce n'est pas d'ailleurs à proprement parler un espace sacré, on y fait aussi, des choses profanes, hein, des activités profanes. L'enseignement se faisait généralement, l'enseignement de niveau, disons, universitaire, se faisait généralement dans la salle de prière des grandes mosquées. Chaque professeur avait son pilier réservé auquel il s'adossait et autour duquel se rassemblaient ses élèves. Ça a un peu changé, mais on est toujours assez mal assis hein, dans les amphithéâtres des universités. Amr, hein, la plus vieille mosquée du Caire, la première mosquée d'Afrique, qui d'ailleurs, en raison de son ancienneté, a aussi suscité ses légendes. On racontait en particulier que la fontaine de la cour au centre de la mosquée de Amr communiquait miraculeusement avec le puits de la Mecque, avec le puits de Zemzem dans le sanctuaire de la Mecque. Et qu'un jour, un homme avait perdu, je ne sais plus si c'est une pièce d'or ou une tasse qu'il avait fait tomber dans la fontaine de la mosquée de Amr, et qu'un de ses amis présents à la Mecque pour le pèlerinage avait trouvé le jour même. Voilà les récits évidemment miraculeux auxquels donnaient lieu ces monuments prestigieux. Une autre image de la mosquée de Amr, de son mihrab. Le mihrab dans une mosquée, c'est la partie décorée du mur, la niche qui indique la direction de la prière, la mosquée étant orientée vers la Mecque. Alors, nous avons vu, le Caire, c'est deux villes, c'est Foustat et Al-Qahira. La cité fatimide avait elle aussi sa grande mosquée, la mosquée Al-Azhar, la mosquée la plus brillante, c'est ça que veut dire le nom Al-Azhar, la plus brillante. Al-Azhar, c'est un nom qui vous est peut-être familier, parce qu'elle est devenue l'une des mosquées universitaires les plus prestigieuses du monde sunnite. On considère même généralement que le recteur, hein, le principal responsable de la mosquée El-Azhar, est la plus haute autorité de l'islam sunnite. Bon. L'islam n'étant pas organisé en église, c'est un privilège que tout le monde ne reconnaît pas au recteur de la mosquée El-Azhar, mais néanmoins, c'est une mosquée qui a un très très grand prestige dans l'ensemble du monde sunnite. Pourtant, la mosquée El-Azhar a eu une histoire assez heurtée, une histoire assez compliquée. Rappelez-vous, elle est fondée donc à la suite de la fondation du Caire par les Fatimides. Les Fatimides sont chiites, chiites ismaéliens. Et c'est d'abord, El-Azhar, un haut lieu de l'enseignement de l'ismaélisme. C'est là, dans cette cour, que les missionnaires ismaéliens sont formés avant d'être envoyés aux quatre coins du monde, ou presque, pour diffuser l'ismaélisme jusqu'en Inde, par exemple. Vous avez encore préservé dans la mosquée le premier mihrab, hein, de la mosquée fatimide avant qu'elle ne soit agrandie. Arrive Saladin en 1171 qui met fin donc au califat des Fatimides. Eh bien, logiquement, il fait fermer El-Azhar. El-Azhar est fermé et reste fermé pendant près d'un siècle. Et c'est seulement sous le règne des Mamelouks, près d'un siècle plus tard, que la mosquée est rouverte et restaurée. Pendant longtemps encore, elle reste un lieu fréquenté essentiellement par les plus pauvres et par les étrangers. Ce sont des étudiants étrangers qui s'installent à El-Azhar et qui commencent à faire grandir son prestige. Des Maghrébins, des Persans, des Yéménites et même des Éthiopiens musulmans qui viennent faire leurs études au Caire et qui s'installent, hein, et qui s'installent à demeure à El-Azhar. Et puis progressivement, le patronage des élites, hein, des mamelouks, des émirs et sultans mamelouks, qui vont construire, qui vont agrandir la mosquée, la doter de minarets, comme ici celui que vous avez à l'écran, ce patronage, hein, de l'élite politique de l'Égypte mamelouk contribue, hein, à renforcer le prestige de la mosquée El-Azhar, qui devient au XVIe siècle la principale mosquée université d'Égypte. Alors je pourrais ainsi multiplier ces vignettes, ces portraits de mosquées qui ont fait la célébrité du Caire, mais on manquerait sans doute l'essentiel, parce que jusqu'à aujourd'hui, en effet, le lieu de culte musulman le plus cher au cœur des Égyptiens n'est pas à proprement une mosquée, enfin si, il sert de mosquée, mais initialement, au moment de sa fondation, ce n'était pas une mosquée. C'était ce qu'on appelle en arabe un mashhad, c'est-à-dire un mémorial, un martyrium, un mémorial. Le mémorial de l'imam al-Hussein, petit-fils du prophète et première grande figure, hein, de l'islam chiite. Car c'est dans ce sanctuaire, qui a été reconstruit de nombreuses fois, vous avez ici ce sanctuaire tel qu'il se présente aujourd'hui, hein, essentiellement reconstruit à la fin du XIXe siècle, ce sanctuaire accueille une très précieuse relique, la tête de l'imam al-Hussein, ou l'une des têtes de l'imam al-Hussein, parce qu'il y en a d'autres ailleurs. Vous savez, les reliques, généralement, ça se multiplie. Eh bien, la tête de l'imam al-Hussein était réputée avoir été conservée à Ascalon, sur la côte palestinienne, et lorsque les croisés firent le siège d'Ascalon, eh bien, les Fatimides ramenèrent au Caire cette relique et construisirent ce grand sanctuaire pour honorer la relique. Il faut savoir que la mosquée al-Hussein reste aujourd'hui un des lieux les plus chers au cœur des Égyptiens sunnites, alors même que le chiisme a disparu, hein, d'Égypte, en particulier pour le Mouled, le Maolid, l'anniversaire de l'imam al-Hussein. Vous avez ici la même mosquée, hein, un soir de fête au moment de l'anniversaire de l'imam al-Hussein. Plus généralement, au-delà de ce cas particulier, ce sont les tombeaux des saints personnages de l'islam inhumés au Caire qui faisaient la célébrité de la ville au Moyen-Âge parmi les voyageurs et les pèlerins. Quand le grand voyageur marocain Ibn Battuta arrive au Caire, qu'est-ce qu'il va visiter ? Les cimetières. Il va visiter les tombes des personnages, des saints personnages, des grands personnages de l'islam inhumés en Égypte. Donc le Caire avait des saints patrons, en quelque sorte, et surtout des saintes patronnes. Surtout des saintes patronnes, Saïda Nafissa, donc Dame Nafissa, Saïda Rukaya, Saïda Zainab, qui sont des descendantes, des parentes du prophète de l'islam, mortes, décédées et inhumées au Caire, et dont les mosquées, vous en avez deux autres exemples, un autre exemple, ça c'est à l'écran la mosquée de Saïda Soukaina, autre descendante du prophète, petite fille de l'imam al-Hussein, j'ai un doute maintenant, qui sont les saintes patronnes du Caire et dont l'anniversaire est célébré, hein, avec de grandes fêtes qui réunissent des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. La grande nécropole du Caire, hein, installée à l'extérieur de la ville, dans le désert, qu'on appelle la Carafa, qu'on appelle aussi la cité des morts, était déjà célèbre au Moyen-Âge pour ses innombrables tombeaux de saints personnages. Tellement célèbre que l'on composait des guides de visite pour les pèlerins, pour qu'ils s'y retrouvent, pour qu'ils puissent trouver les tombeaux des saints qu'ils venaient visiter. Le prestige spirituel des cimetières du Caire attirait des mystiques du monde entier. On sait par exemple que de nombreux musulmans venus d'Afrique sahélienne, hein, du Mali actuel, du Mali, du Niger, qui faisaient le pèlerinage à la Mecque, au retour de la Mecque, décidaient souvent de s'installer au Caire et de s'y établir pour le reste de leur jour dans ce grand cimetière où s'est donc formée au Moyen-Âge une communauté hein, de musulmans africains. Alors avons-nous fait le tour des monuments célèbres du Caire ? Il y en a d'autres, j'en laisse de nombreux de côté. Il faudrait également faire une place aux lieux saints des autres communautés religieuses présentes au Caire, aux juifs d'obédience rabbinique ou karaïte, aux chrétiens d'obédience copte ou melkite. L'Égypte et le Caire en particulier étaient un lieu de pèlerinage pour des chrétiens venus du monde entier, d'Occident, d'Arménie, d'Éthiopie, qui se rendaient en Égypte sur les traces de la Sainte Famille. Vous connaissez peut-être cet épisode de la vie du Christ qui est mentionné d'une seule phrase dans l'évangile de Matthieu, mais qui est développé par la littérature apocryphe postérieure aux évangiles. C'est la fameuse fuite en Égypte hein, de la Sainte Famille de Jésus et de ses parents, et dont progressivement au Moyen-Âge, on fixe les étapes, les lieux, les haltes en Égypte et au Caire. Et vous avez à l'entrée du Caire, dans un village qui s'appelle Matarié, le lieu où la Sainte Famille s'est arrêtée, raconte l'histoire, à l'ombre d'un arbre. Alors vous avez ici à l'écran des fresques qui ornent une église construite à l'emplacement dans ce village à la fin du XIXe siècle, où l'on représente à la fois la fuite de la Sainte Famille et l'arbre auprès duquel elle s'abrite. Hein, le baumier, c'est un arbre qui générait une sève, le baume, auquel on prêtait des vertus miraculeuses et dont on faisait commerce dans l'ensemble du monde occidental au Moyen-Âge. Alors, nous voilà arrivés au terme, presque, de cette visite du Caire. Et qu'avons-nous saisi de la ville ? Alors, l'histoire de son nom, la description de son paysage, l'histoire de ses remparts. Nous avons visité ensemble quelques-uns de ses monuments les plus fameux. Autrement dit, nous avons saisi ce qui constitue d'ordinaire la matière, d'un guide touristique assez bien documenté. Mais d'ailleurs, les voyageurs qui découvraient le Caire au Moyen-Âge ne procédaient pas autrement. Je me suis contenté ici de me glisser dans les pas de ces voyageurs et pèlerins qui découvraient le Caire, à peu près dans l'ordre où je voulais présenter. Mais j'en conviens, je l'avoue volontiers, le plus important nous échappe encore. Et le plus important échappe bien souvent au travail de l'historien ou de l'historienne. Le plus important, c'est quoi ? C'est l'identité sensible d'une ville. C'est la façon, bien à eux, qu'ont les habitants d'y vivre, d'y aimer, d'y rêver, et qui laissent bien évidemment très peu de traces. Dans le tableau que je viens de brosser, il manque le plus important, il manque les gens. Écoutons ce qu'en dit le grand voyageur marocain Ibn Battuta, qui arrive au Caire, d'après ses dires, parce que ses dires sont en partie mensongers, mais peu importe, en 1326. Alors vous n'arrivez peut-être pas tous à lire cette citation, je la lis pour vous. Ibn Battuta, ou plutôt celui qui écrit pour Ibn Battuta, vers 1355. J'arrivais enfin au Caire, capitale du pays où résidait jadis Pharaon aux épieux. Savoir que dans le texte du Coran, Pharaon est mentionné, c'est l'archétype du tyran, et il est mentionné sous cette appellation un peu intrigante que les commentateurs, les exégètes musulmans du Coran essayent de commenter, de Pharaon aux épieux, lié à la tyrannie, à la violence du personnage. J'arrivais enfin au Caire, capitale du pays où résidait jadis Pharaon aux épieux. Cette ville a pour apanage de vastes provinces et de riches contrées. Elle est très peuplée. Elle tire orgueil de son charme et de son éclat. C'est le point de rencontre des voyageurs et la halte des faibles et des puissants. Au Caire, on rencontre tous ceux qu'on désire rencontrer. J'aime beaucoup cette phrase-là. Au Caire, on rencontre tous ceux qu'on désire rencontrer. Savants et ignorants, hommes sérieux et badins, charitables et impudents, humbles et bien-nés, nobles et hommes du peuple, inconnus et célèbres. La fouille grouillante des Caireotes ressemble au flot tumultueux de la mer, et la ville est presque trop exiguë pour la contenir, bien qu'elle soit très étendue et qu'elle ait de vastes possibilités. Le Caire paraît être une ville récente, bien que très ancienne. Ça aussi, la phrase est extraordinaire. Pour qui connaît le Caire, c'est exactement ça encore aujourd'hui. Une ville récente, bien que très ancienne. Et elle est toujours sous une bonne étoile. Ça, l'étoile du Caire a peut-être un peu trop pâli ces temps derniers. On ne comprendrait rien au Caire sans rappeler ce que la ville doit à la foule de ses habitants. Cette foule bruyante, souvent joyeuse, toujours absorbée par ses mille métiers et par les soucis sans nombre du quotidien. Une ville où tous, enfants et vieillards, sont friands d'histoire. Le Caire, c'est la ville aux mille et un cafés. Le café qui fut introduit au Caire dès le début du XVIe siècle, un siècle et demi avant d'arriver à Vienne et plus tard à Paris. Les cafés du Caire, où l'on aimait autrefois écouter les conteurs. Voici ce qu'en écrivent de ces cafés du Caire les savants français venus avec Bonaparte et qui découvrent la ville en 1798. La ville du Caire renferme, j'ai écrit le Caire avec l'orthographe, j'ai conservé l'orthographe de la description de l'Égypte. La ville du Caire renferme environ 1200 cafés, non compris le Vieux Caire et Boulac, qui est un quartier portuaire du Caire. Ces établissements n'ont d'autre rapport avec ceux qui portent le même nom en France que la consommation de café qui s'y fait chaque jour, bien que cette liqueur y soit servie différemment. On sert le café tout bouillant dans des tasses qui peuvent contenir environ le tiers des nôtres. Il ne se boit pas, car on se brûlerait infailliblement, mais il s'aspire. Et cette coutume générale en Orient demande encore une certaine habitude. On trouve ordinairement dans chaque café une espèce d'orateur qui raconte ou chante l'histoire, vraie ou fausse, d'un personnage merveilleux dont le nom est consacré dans les fastes de la religion ou de l'histoire musulmane. Son discours est animé, plein de force et d'énergie, ses chants sont remplis d'exaltation et de feu poétique. Il s'interrompt souvent pour demander à ceux qui l'écoutent s'ils doutent de la vérité. S'ils doutent de la vérité de son récit, et s'il n'est pas tout ensemble pieux et beau. L'histoire d'Alexandre, celle de Gengis Khan, sont des sujets qui fournissent à ces scaldes arabes, les scaldes c'était les poètes scandinaves, qui fournissent à ces scaldes arabes la matière ordinaire de leur chant. Ils y ajoutent mille histoires merveilleuses et les récits de combats héroïques, dont le fond est puisé dans les annales de leur pays. Le Caire, c'est une ville de contes et d'histoires. C'est la véritable ville des mille et une nuits. Les mille et une nuits dont les contes, pour beaucoup, furent composés au Caire, tout en se déroulant à Bagdad. Mais c'est un Bagdad, c'est une Bagdad de carton-pâte, c'est un décor de Bagdad. Le Caire, ville des mille et une nuits, c'est enfin le spectacle sans fin de ces rues, de l'agitation de la ville qui se prolonge tard dans la nuit. J'aimerais laisser le dernier mot ce soir au grand romancier égyptien Naguib Mahfouz, né en 1911 au Caire, né dans le vieux quartier de la Gamalia qui habite son œuvre. Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature en 1988, mort en 2006. Dans le passage que je vais vous lire, le personnage principal, c'est la ville. La ville, c'est le vieux quartier tel qu'une femme qui n'est encore jamais sortie de chez elle et qui va sortir de chez elle dans le roman. Le vieux quartier tel qu'une femme l'observe derrière un écran de bois tourné, ce qu'on appelle un moucharabier. Et vous avez ici à l'écran un très beau moucharabier du XVIIIe siècle. Le moucharabier donnait sur la fontaine de Bayn el-Qasrayn. Bayn el-Qasrayn, c'est ce vieux quartier au centre du Caire où se trouvaient les palais des califes fatimides. Bayn el-Qasrayn, en arabe, ça veut dire « entre les deux palais ». Tout simplement parce que les palais des califes fatimides étaient composés de deux ensembles, le palais oriental, le palais occidental. Le moucharabier donnait sur la fontaine de Bayn el-Qasrayn et surplombait l'intersection de la rue du même nom, qui montait vers le nord, avec la rue d'An-Nahassin, qui plongeait vers le sud. À gauche, la voie apparaissait étroite, sinueuse, tapie dans l'ombre épaisse des étages supérieurs où s'alignaient les fenêtres des demeures endormies et celles, plus diffuses, des rez-de-chaussée profitant de la lumière, des lanternes à bras, des enseignes des cafés ou d'une poignée de boutiques faisant nocturne jusqu'à la pointe de l'aube. Pour quiconque connaît le Caire, ces boutiques qui faisaient nocturne jusqu'à la pointe de l'aube font évidemment partie du paysage. À droite, la rue s'engouffrait dans une zone obscure, désertée par les cafés, au profit des grands magasins, fermant tôt leurs portes. Rien sur cette toile de fond n'accrochait le regard, hors les minarets des collèges de Kalaoun et de Barkouk. Je ne résiste pas à vous les montrer. Hors les minarets des collèges de Kalaoun et de Barkouk, fiers comme des silhouettes de géants montant la garde sous la voûte étoilée. Je vous remercie.